bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
La première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter là.
Quand des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire des bénéfices à une entreprise, et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir. Donc, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi 27 février 2023.
Et tout de suite, la citation de la...
On va peut-être faire les titres.
On va faire les titres. Donc, on commencera par une citation de la semaine, on enchaînera avec des brèves.
Ensuite, à l'international, on parlera de la situation en Palestine.
Au national, nous parlerons du procès de Vincenzo Vecchi qui a eu lieu ce vendredi à Lyon. Et on enchaînera avec un sujet sur les retraites et les mensonges du gouvernement.
Et au local, on interviewera nos camarades des arts et de la culture et de la ville de Lyon et des organismes sociaux de la CGT.
Mais tout de suite, on commence avec les brèves. Non, avec la citation de la semaine, on va y arriver,
c'est
décidément.
Laborieux.
Ah, mais oui, c'est un peu laborieux. Et donc, la citation de la semaine.
On a découvert un dur à cuire. Il a du caractère et sait se farcir des réunions de 5 heures pour attendrir la viande. Et oui, c'est une citation d'Agnès Pannier-Runacher qui évoque son collègue Olivier Dussopt dans un portrait du ministre dans Le Monde d'hier. Et la métaphore bouchère ne s'arrête pas là, puisqu'il se compare lui-même à du gibier traqué par les prédateurs de la France insoumise. Oui, 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 c'est bien lui qui utilise cette métaphore. Je cite l'article. Il se compare à un animal blessé, avec en mémoire le conseil de son beau-père, chasseur de lièvres et de sangliers, de ne pas tuer une bête à moitié. Lui n'est pas un lapin, prévient-il. On découvre aussi dans ce bel article siglé Chasse-pêche, nature et tradition la morning routine du ministre, levé à 5h15, 50 pompes, 50 abdos et hop, c'est parti pour défendre sa belle réforme des retraites. Il suit ensuite un régime protéiné à base de steak tartare, parce que c'est un bonhomme, faut pas croire. Ça aussi c'est lui qui le dit, hein, parce que c'est pas parce qu'il a une petite voix que c'est pas un costaud. Et oui, Dussopt en grande forme donc. Espérons que la chasse au Dussopt sera vite ouverte et qu'elle sera fructueuse.
Allez, les brèves.
Dans la suite des bonnes citations, un partenaire des initiatives pour la protection du climat et de la biodiversité, en particulier sur la protection des forêts. Qui sait? Mais c'est ce cher Jeff Bezos. Il a été décoré de la Légion d'honneur par notre encore plus cher Emmanuel Macron. Monsieur Bezos, 119 milliards de capital volés aux travailleuses et aux travailleurs dans les poches, était de passage à Paris. Il en a donc profité pour passer jeudi 16 février à l'Élysée, Curieusement, l'agenda officiel de Macron ne mentionnait pas cet événement ce jour-là. Il faut dire que le même 16 février, avec une manif de plusieurs millions de personnes contre la réforme des retraites, on n'a pas été déçu de ne pas être allé à l'Élysée.
Et tout de suite, on continue avec une brève sur Saint-Brévin, qui se situe en Loire-Atlantique ce samedi 25 février. 150 néo-nazis, royalistes, identitaires, zémouriens et autres racistes s'y réunissaient contre l'ouverture d'un centre d'accueil pour réfugiés. Et oui, heureusement, un appel antifasciste a été très très bien suivi, puisque plusieurs centaines de personnes, au moins le triple, hein, sont venues contre les fachos et pour la liberté de circulation, d'installation et la régularisation de tous les sans-papiers. Alors, une fois n'est pas coutume, les flics ont protégé les fachos et attaqué à plusieurs reprises le cortège et le rassemblement antifasciste. Néanmoins, le rapport de force était bien du côté des camarades, donc bravo à eux, no pas salan.
Et quelques infos pour les grèves en cours, de quoi faire monter la tension avant le 7 mars. Depuis vendredi dernier, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, des débrayages importants sont en cours sur le site de Dassault Mérignac pour des augmentations de salaire. En France, sur les 9 sites, ce sont près de 900 travailleurs et travailleuses qui ont débrayé dans les usines Dassault. Chez l'équipementier automobile MA France, cette fois-ci, qui est sous-traitant de Stellantis, une grève pour les salaires également de 3 jours vient de s'achever sur une victoire. 6% d'augmentation, une prime de 2000 balles et le paiement des jours de grève. Bravo à eux et à elles. En grève également depuis 14 jours, ce sont les soignantes de l'EHPAD Les Jardins de l'Alouette à Pessac, près de Bordeaux, qui sont en grève pour dénoncer leurs conditions de travail et demander des embauches supplémentaires de personnel. Et enfin, depuis lundi dernier, dans le grand groupe de logistique et de transport automobile CAT, situé au nord de Bordeaux, les travailleurs et les travailleuses sont en grève aussi pour l'augmentation de leur salaire. Donc voilà, on espère qu'elles vont gagner et que ça augure.
Il avait pas fini. On passe tout de suite à
International.
Et on commence avec un sujet sur la Palestine.
Oui, Israël continue sa politique de terreur coloniale. Le 22 février dernier, un raid de l'armée israélienne a fait 11 morts et une centaine de blessés à Naplouse. C'est le bilan le plus sanglant depuis 20 ans en Cisjordanie occupée. Dans un contexte où l'extrême droite est au pouvoir et où la Cisjordanie est occupée par 450 000 colons, qui se sont installés à la suite le plus souvent d'expropriation, la violence faite aux Palestiniens et aux Palestiniennes s'est intensifiée depuis quelque temps, même si, bien sûr, l'oppression est, elle, permanente. À peine un mois après un autre raid israélien qui avait coûté la vie déjà à 10 Palestiniens dans le camp de réfugiés de Jenin, l'armée d'occupation a à nouveau frappé, donc, avec violence la semaine dernière. C'est l'attaque, on l'a dit, la plus meurtrière depuis la seconde intifada entre 2000 et 2005. Sous couvert d'opérations antiterroristes, les Mista Arvim, qui sont les soldats israéliens clandestins, souvent cachés, parfois déguisés, ont pénétré dans Naplouse au petit matin, un jour de marché, alors que la foule était évidemment très dense. Leur cible officielle, deux membres de Harin El Saasoud, les Tanières des Lions en français, c'est un groupe qui s'est engagé dans la lutte armée contre l'envahisseur. Mais le but réel de ce carnage est aussi évidemment, encore une fois, de marquer les corps, de faire un exemple, de semer la terreur, comme l'atteste par exemple l'usage de doum-doum, ces balles qui explosent dans la chair pour ne laisser quasiment aucune chance de survie et qui sont pourtant interdites par le droit international. Mais la violence de l'attaque ne s'est pas terminée là. Le lendemain, le 26 février, c'est un pogrom qui a eu lieu un peu plus loin dans la commune de Houara, au sud de la ville de Naplouse, toujours en Cisjordanie. Cette fois-ci, ce sont des colons israéliens qui sont venus d'une colonie voisine qui ont organisé un raid punitif pour venger la mort de deux colons la veille. 20 maisons et 15 voitures ont été incendiées, une personne assassinée, tandis que 3 ambulances ont été vandalisées. On rappelle aussi que depuis le début de l'année, 63 Palestiniens et Palestiniennes ont été tués par Israël, force à la résistance palestinienne.
Et puis, on enchaîne avec le
National.
Donc un sujet au national qui est aussi à l'international et qui est aussi
c'est pour ça
au
qu'il
local.
Avait un jingle
et il a
lui.
Un jingle, mais oui, mais il arrive tout de suite ce jingle.
Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce vendredi 20 juillet, c'est d'abord la ville de Gênes en Italie, en proie à de très violents affrontements en marge du sommet du G8. Un manifestant tué par balle, deux blessés graves, de nombreuses arrestations. Et dans le camp retranché, les hommes les plus puissants du monde discutent de l'avenir de la planète.
C'était en 2001, en marge du sommet du G8 à Gênes. Les violences policières contre les altermondialistes avaient été telles qu'une personne avait été tuée et plus de 80 blessés. Un de ces blessés vient de faire condamner l'Italie par la Cour européenne des droits de l'homme, car aucun des auteurs des violences policières n'a jamais été poursuivi.
L'actualité de ce dimanche, c'est aussi l'arrestation en Bretagne de Vincenzo Vecchi. Alors ce nom ne vous dira peut-être rien, il s'agit en fait d'un activiste italien condamné à 13 ans de prison en Italie pour avoir participé aux violences des altermondialistes lors du sommet du G8 à Gênes.
Les mandats d'arrêt européens à l'encontre de Vincenzo Vecchi sont-ils valables ? C'est la question que soulève son avocate. Selon elle, les condamnations par la justice italienne auraient été déjà exécutées ou suspendues, ce qui devrait rendre caduques les demandes d'extradition de la France vers l'Italie.
Elles paraissent bien loin, ces images de joie devant le palais de justice de Rennes. C'était il y a un mois. Ce jour de 15 novembre, la cour d'appel de Rennes ordonnait la remise en liberté de Vincenzo Vecchi. Un mois plus tard, la cour de cassation vient finalement de casser cette décision.
Les possibilités de la lutte et l'essence politique de la loi. Deux luttes, une date et autres analogies. Il n'y a pas de doute que seule la lutte ouvre des possibilités, même seulement de résistance. Les décisions de deux cours de justice sont attendues le 24 février, toutes deux très importantes. La première est attendue en France, où après 3 ans de bataille judiciaire, la cour d'appel de Lyon devra décider si elle remet Vincenzo Vecchi à l'Italie, où il doit purger 12 ans de prison pour le crime de dévastation et pillage prévu par le décret royal 1398 du 19 octobre 1930. La deuxième est attendue en Italie, où la Cour de cassation devra décider si Alfredo Cospito, en grève de la faim depuis 4 mois, doit rester isolé dans le régime pénitentiaire spécial appliqué en vertu de l'article 41 bis de l'ordonnance pénitentiaire, introduit en urgence en 1992 et jamais aboli.
Et donc on en avait déjà parlé ici, on vient d'entendre un petit résumé de l'affaire Vincenzo Vecchi. On en avait parlé ici et ce vendredi 24 février se tenait à Lyon un nouveau procès en appel pour le militant italien qui avait été condamné en 2012 par la justice italienne à 12 ans et demi de prison ferme pour sa participation au contre-sommet de Gênes en 2001.
Alors pour rappel, Vincenzo est venu se réfugier en France avant même de connaître sa condamnation. Il est allé s'installer dans le Morbihan en Bretagne. En 2019, il a été arrêté par une brigade de recherche spécialisée dans la traque des fugitifs sur demande de l'Italie, dans la perspective d'une extradition et d'une incarcération en Italie en se basant sur le principe du mandat d'arrêt européen. C'est le début d'un long parcours judiciaire et d'un combat éminemment politique. En termes judiciaires, ce qui joue notamment, c'est la question de la double incrimination.
Mais qu'est-ce donc que cette double incrimination ?
Quelle transition ? C'est trouver un équivalent entre la loi qui permet de condamner Vincenzo Vecchi, là en l'occurrence en Italie, et une loi française. Or, la loi italienne qui a permis de lourdement condamner Vincenzo Vecchi en Italie, c'est la loi dite dévastation et saccage ou pillage qui émane du Code Rocco établi en 1930 par le régime fasciste de Mussolini.
Et pour donner un aperçu du contexte dans lequel le Code Rocco a été écrit, voici ce qu'on peut lire en 1932 sous la plume de Pierre de Casabianca dans l'introduction au Code pénal du Royaume d'Italie de 1930.
Pendant la discussion du budget de la justice devant le Sénat en 1929, le ministre Rocco s'est écrié « Notre code pénal est un code politique ». Et de fait, Son but primordial est d'identifier la philosophie juridique pénale avec la philosophie même du fascisme, en ce que, bien différente de la philosophie individualiste des encyclopédistes ou de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et même du Code pénal français, elle oppose à l'ancienne conception du droit de punir une conception sociale, collectiviste et étatiste.
Une loi donc qui, dans sa conception même, s'oppose aux principes fondamentaux du droit français, on l'a bien vu. Cette contradiction, elle semble claire à l'Italie fasciste de 1930, on l'a entendu. Eh bien, elle apparaît désormais accessoire tant à la Cour de cassation française qu'au pouvoir politique en place. En Italie, cette loi, elle est de plus en plus utilisée pour réprimer le mouvement social, comme l'exprime un camarade du comité de soutien breton lors de la conférence de presse du 23 février, à la veille du procès.
Oui, effectivement, c'est devenu la loi à la mode pour réprimer le mouvement social en Italie. Pourquoi l'Italie a gardé les lois mussoliniennes? Mais c'est un débat qui est interdit en Italie. Elle est interdite en Italie pour une raison simple, que l'Italie, à un moment donné, a décidé que le fascisme en Italie, ça a été une petite parenthèse. 20 ans, c'est presque rien. Et donc, il a décidé simplement, à la fin de la guerre, de garder les mêmes fonctionnaires, de garder les mêmes lois, de garder les mêmes juges, etc., etc.
Alors, ce délit, dévastation et saccage ou pillage, il permet de condamner entre 8 ans et 15 ans de prison ferme des personnes qui étaient présentes lors de telle ou telle manifestation où un certain nombre de faits ont été commis. C'est ce qu'on appelle le concours moral. Mais il n'a pas d'équivalent en France.
C'est entre autres choses pour cette raison que les cours d'appel de Rennes puis d'Angers ensuite ont invalidé la demande d'extradition. Une décision de justice qui a immédiatement été contestée par le parquet donc le pouvoir politique français, et ensuite invalidé en cour de cassation, ce qui provoque ce ping-pong judiciaire un peu complexe mais qui nous amène au procès lyonnais ce vendredi.
Le principal qui sort de cette conférence de presse, les carottes ne sont pas cuites. Ça veut dire que l'affaire Vincenzo n'est absolument pas terminée. Ça veut dire que effectivement peut-être le ministre de la Justice français a renvoyé à Lyon pour faire le sale travail de mettre la signature en bas pour accepter ce mandat d'arrêt européen. Mais ce n'est pas comme ça. Ça veut dire qu'on est encore là, on a beaucoup de soutien. Demain, il y aura beaucoup de monde qui vient d'un peu partout. Et donc, on a raison. Déjà, deux coups, Rennes et Angers nous donnent raison. Et on espère que Lyon va avoir le courage, effectivement, de dire non aussi et de résister aux injonctions du gouvernement français. Ce qui transparaît aussi de cette conférence de presse-là, c'est assez clair, surtout vers la fin, ça veut dire qu'on n'est plus dans le cas Vincenzo. Désormais, on est dans le fait qu'il y a un glissement au niveau européen de nos droits, de notre possibilité de manifester, et que la loi dévastation et pillage, si elle rentre dans l'espace juridique européen, tôt ou tard, elle va être utilisée sous un autre nom, d'une autre forme, mais elle va être utilisée dans les différents pays. Ça veut dire que la loi dévastation et pillage réprime pour la seule raison d'être là pour manifester, pour ce qu'on est, pour ce qu'on est des opposants, parce qu'on est là pour brailler, pour gueuler. Et donc, ça, si on n'arrête pas cette mandat d'arrêt européen-là, on risque effectivement un glissement vers un État de plus en plus autoritaire.
Donc, comme nous le dit là le membre du comité de soutien à l'issue donc de la conférence de presse du 23 février, cette bataille judiciaire, elle dépasse largement la seule liberté de Vincenzo. Au lendemain justement de cette conférence de presse, le procès en appel se déroulait donc aux 24 colonnes. On y était et on écoute.
Quelques infos sur le rassemblement. On n'est pas dans le quartier le mieux famé de Lyon, donc on va essayer de repartir en groupe si possible. Le procès devrait débuter d'ici une vingtaine de minutes. Il n'y a que 30 places disponibles à l'intérieur qui sont déjà attribuées. Donc si elles ne vous ont pas été attribuées, on vous demandera de ne pas essayer de rentrer, puisque la priorité est évidemment donnée aux proches de Vincenzo.
Depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées? En 2001, j'ai mis de gel 300 000 gens que ça gêne. Ils viennent pour scander leurs idées, mais vont se le faire torturer.
Faire un peu un petit point de l'audience qui a commencé il y a une heure et
et quelques, je pense. Au début, ça a commencé par un long point du juge qui récapitulait en gros toutes les données, tous les enjeux de cette affaire. En particulier les infractions qui sont reprochées à Vincenzo, les dates du mandat d'arrêt, les dates de la prononciation des peines en Italie, etc. Il a fait aussi un rappel assez long sur les différentes décisions judiciaires de ce dossier, que ce soit Rennes, Angers, puis pour finir donc la Cour de cassation. Et il est revenu, en gros, sur les différents points soulevés par la défense. Voilà, ensuite il y a eu la parole donnée à l'avocat général. Il a fait un plaidoyer relativement court pour dire qu'il était complètement nul et non avenu de discuter encore de la question de la double incrimination, puisque la Cour de cassation avait été claire à ce sujet. Et puis, sur les conditions carcérales, donc là, c'était un peu un sketch quand même. Il a fini avec ça, en nous faisant une sorte de panorama des conditions carcérales en Italie qui serait quand même à peu près idyllique, quoi. Enfin, c'est-à-dire, il nous sort des rapports, je ne sais pas trop d'où. Et voilà. Et là, donc, c'était la parole était à la défense. Voilà pour en est.
Merci.
Merci.
Policiers sont condamnés, mais restent en liberté. Vincenzo Vecchi aujourd'hui, encore et toujours poursuivi.
Sera rendu le 24 mars.
C'est une audience très intense, d'abord sur le plan des droits fondamentaux, parce que c'est le sujet, et il y a eu une grande écoute de la Cour sur toutes ces questions-là. Le signe qui est envoyé par la justice, c'est qu'elle prend le temps d'écouter tous les arguments, qu'elle écoute, et qu'elle va maintenant y réfléchir jusqu'au 24 mars.
Donc là, quelle est la prochaine étape ?
La prochaine étape, c'est la décision du 24 mars. La Cour maintenant, donc les trois juges, hein, c'est surtout le président qui parle, mais ils sont trois à décider, qui va réfléchir à ce qu'elle va faire de la situation de M. Vecchi et nous rendre sa décision.
Justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi les mots de votre client au début de cette audience ? Je refuse, je crois, d'être remis à l'Italie.
Oui,
ça c'est la loi.
C'est la procédure.
La Cour doit l'interroger sur cette question, puisque c'est une question de procédure, et c'est évidemment un choix et un droit surtout exercé par M. Vecchi depuis le début. Voilà, et jusqu'ici, il a mené ce combat. C'est surtout, ce sont les mots avec lesquels il a terminé cette audience qui sont importants. Il a, lui, toujours assumé son éthique et sa vie en France. Voilà, maintenant, à la justice de nous dire s'il peut être entendu.
Liberté pour Vincenzo ! Manifester n'est pas un crime !
Et donc, un certain nombre de camarades italiens s'étaient déplacés de Milan pour soutenir donc Vincenzo, mais aussi pour mettre en lumière la situation d'Alfredo Cospito, prisonnier politique anarchiste condamné à une longue peine, qui a entamé une grève de la faim le 20 octobre 2022. Il demande à sortir du régime spécial 41 bis, un régime d'isolement extrême qui constitue une véritable torture psychologique. On écoute un camarade italien.
Nous sommes venus ici de Milan pour soutenir Vincenzo. Nous sommes venus parce que nous sommes préoccupés que la dévastation et le pillage peut être utilisée aussi au dehors de le territoire italien. Et pour ça, c'était très important pour nous de venir ici. Mais ce n'était pas facile parce que Milan, c'est loin. Et aussi parce qu'en Italie, il y a beaucoup de manifs pendant ces jours pour la question de 41 bis. Et il y a la règle pénitentiaire et il y a le 41 bis qui est la suspension de la règle. Ça veut dire que pour tous les détenus, tous les prisonniers, il y a une règle, mais il y a une catégorie spéciale de prisonniers pour laquelle cette règle ne marche plus. Il y a une grève de la femme qui a duré plus de 120 jours. Et le prisonnier qui fait ça, c'est possible qu'il va mourir entre une semaine. Et la décision prévue, c'est aujourd'hui, mais peut-être que ce sera pas la décision définitive. Et ça, c'est en continuité aussi avec la législation d'urgence contre les manifs. Et pour ça, on a décidé de lier cette question, de venir ici à Lyon. Et on a expliqué en Italie à notre camarade qui était important d'être ici à Lyon pour la dévastation et pillage, qu'il y a des continuités entre des normes fascistes en Italie, et pas seulement fascistes, mais aussi émergentiales, comment dire, déception.
Et donc, si le verdict pour Vincenzo Vecchi est attendu le 24 mars, les juges suprêmes italiens ont quant à eux déjà décidé du sort d'Alfredo Cospito, qui devrait rester dans le dur régime carcéral 41 bis. Que crève la tôle, liberté pour Vincenzo, liberté pour Alfredo.
Et on va passer un petit peu au sujet des retraites.
Oui, tout à fait. Alors, pour faire passer la pilule de sa réforme des retraites dégueulasses, le gouvernement Borne a annoncé des petites mesurettes compensatoires. Parmi elles, le fameux minimum de pension à 1200 euros, qui avait soi-disant pour but d'augmenter de quelques miettes la retraite des pauvres ayant travaillé toute leur vie. Premier problème, ces 1200 euros ne sont inscrits nulle part dans la loi. Il s'agira en réalité d'une misérable hausse entre 0 et 100 euros par mois de ce qu'on appelle le minimum contributif. Concrètement, pas grand monde verra sa retraite augmenter, et encore moins les femmes, puisqu'elles ont souvent des carrières hachées. Mais surtout, deuxième problème, cette pseudo-hausse annoncée va se traduire en réalité par une baisse de revenus. En effet, le gouvernement a annoncé une hausse du minimum contributif. Mais il y a tout un tas de personnes qui perçoivent aussi un autre type de minimum, ce qu'on appelle le minimum vieillesse, ou aussi appelé ASPA. Or, quand le minimum contributif augmente, le minimum vieillesse diminue du même montant, donc les gens ne gagnent rien du tout. On ajoute à ça le fait que le minimum contributif sert de base ressource au calcul des aides au logement. Ça veut dire que lorsque le minimum contributif augmente, la personne perçoit moins d'aide au logement et moins de minimum vieillesse. On gagne sur un tableau, mais on perd sur deux. Et donc les pertes peuvent être supérieures à 400 euros par an. Troisième problème, qui va voir ses revenus augmenter? Les riches? Bien sûr que non. Qui va voir ses revenus diminuer, pardon. C'est bien les riches, oui. C'est les pauvres qui vont voir leurs revenus baisser. Et c'est pas n'importe quel pauvre, puisque c'est les plus pauvres et les plus pauvres, c'est les retraités qui gagnent moins de 950 euros par mois. Conclusion, le gouvernement essaie de nous vendre une réforme en assurant qu'elle va améliorer le niveau de vie des plus pauvres alors qu'elle va leur voler de l'argent. Donc le gouvernement ment, mais ça, on le savait déjà.
Et jingle grève.
Les Français sont défavorables à notre réforme.
La société tout entière est vent debout et seul le MEDEF et M. Ciotti vous soutiennent encore.
Les Français sont défavorables à notre réforme.
On va perdre. Ça sert à rien de se raconter des histoires. Si le mouvement n'est pas fort, si le mouvement part pas en reconductible le plus rapidement possible, on va perdre.
La bataille, front haut et poing serré, la terre au long très sale, sous nos souliers ferrés, marchons à la bataille.
Et on veut une augmentation salariale tout de suite de 2000 euros pour l'ensemble des salariés, le SMIC et un départ en retraite à 50 ans à temps plein. C'est ça nos revendications. On ne peut pas tuer des ouvriers derrière des quais et les mener à la mort jusqu'à 70 ans.
Si les camarades raffineurs ils disent 6, 7, 8, etc. et il faut déclencher la grève reconductible, c'est pas parce qu'on est des gauchistes ou on est pressé. C'est parce que le gouvernement il frappe vite.
Anti-capitaliste.
Bientôt la révolution.
Et oui, bientôt la révolution. En attendant, on continue à faire des émissions spéciales grève. Et aujourd'hui, ce sera des interviews spéciales grève. Alors, ça s'annonce pas mal pour le 7 mars et après. Les appels à la grève reconductible se multiplient. Les raffineries, les cheminots, les ports et docks, le secteur de l'énergie, les éboueurs, les industries de verrerie et de céramique. Tout ça, c'est des appels issus un peu des fédérations de la CGT. Côté routier, Force ouvrière et Sud Transport appellent à partir en reconductible dès le 5 mars au soir. Solidaire, national, confédéral appelle à la reconductible dès le 7. Sud Éduc et la CGT Éducation également, partout c'est possible. Et puis bien sûr, il y a les universités et les lycées où les appels se multiplient. Et maintenant, de nombreuses organisations, d'ores et déjà plusieurs amphis ou universités sont soit bloquées, soit occupées partiellement un peu partout en France. Ça sent bon les amis, ça sent bon. Passons tout de suite à nos interviews. On a deux secteurs qui vont être particulièrement mobilisés et on commence avec le premier.
Oui, bah c'est les arts et la culture, hein, on a vu qu'ils se sont mis en ordre de bataille ces dernières semaines pour la lutte contre la réforme de l'assurance des retraites, pardon. Parce que d'habitude, c'est l'assurance chômage. Mais il y a aussi une réforme de l'assurance chômage contre laquelle il faut se battre. On accueille donc tout de suite en studio Samy, qui est écrivain, artiste, auteur. Alexis, qui est admin dans le spectacle et artiste, qui est intermittent et à la CGT Syntac. Et Marie, qui est traductrice, artiste, auteurice et qui fait partie du STACNT. Donc, on parle souvent ici, nous, des intermittents. Dans ce mouvement, il y a beaucoup d'artistes auteuristes qui se mobilisent. À mon sens, c'est un truc intéressant, notamment parce qu'il y a des spécificités de ce statut quant à la question de la réforme des retraites. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Marie, sur le statut d'artiste auteuriste ?
Oui, alors bonsoir. Oui, les artistes auteuristes, c'est un statut qu'on pourrait comparer au statut des auto-entrepreneurs à quelque chose près. Souvent, quand vous êtes au régime artiste auteuriste, on pense que vous êtes intermittent et en fait, on aimerait bien, mais ce n'est pas le cas. En particulier parce que nous, on n'a pas droit au chômage. Donc, sous prétexte qu'on cotiserait pas pour, on pourrait pas avoir droit. Donc, c'est un peu dégueulasse. Et donc, déjà, on aimerait bien. Et pour ce qui est de la réforme des retraites, ben, en fait, on est concerné au même titre que tous les travailleurs et toutes les travailleuses parce que on dépend, nous aussi, du régime général. C'est-à-dire que quelqu'un qui est payé en droit d'auteur paye des cotisations sur ses droits d'auteur, comme n'importe quelle travailleuse, n'importe quel travailleur. Et dans nos cotisations, il y a le régime de base qui est exactement le même que tous les salariés. Donc on est concerné également par cette réforme, puisqu'elle nous pousserait, alors bien sûr pas à travailler plus longtemps en vrai, mais simplement à toucher encore moins quand on sera à la retraite. Et on est déjà un secteur dans lequel les gens sont plutôt pauvres.
Est-ce que tu peux nous parler très rapidement de ce que le STACNT fait, un peu comment vous organisez ?
Alors, donc moi je fais partie du STACNTSO, donc c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses artistes, auteurs, autrices de la CNTSO. Alors nous, on s'est constitué à la base autour de justement cette revendication d'avoir un droit au chômage, nous aussi, puisque justement on est par définition précaire et quels que soient les domaines dans lesquels on travaille. Nous, on représente tous les travailleurs, toutes les travailleuses qui sont payés en droit d'auteur. C'est un truc un peu spécifique à la France. Il y a un certain type de travail qui peut être payé en droit d'auteur. Alors, pour la traduction, par exemple, la traduction littéraire ou audiovisuelle peut être payée, doit être payée même en droit d'auteur, contrairement à une traduction technique qui va être en auto-entreprise ou en salariat. Alors que c'est quelque part le même métier, mais il y a une spécificité. On peut représenter aussi des photographes, des sculptrices, des plasticiens. On a qui d'autre encore ? On a des illustrateurs, des illustratrices. Et en fait, notre travail, c'est à la fois de faire un travail d'information sur nos droits, parce que ça nous semble extrêmement important de connaître notre statut pour pouvoir ensuite le changer. Et prioritairement, nous, ce qu'on demande, donc, c'est ce droit au chômage. Mais on fait aussi beaucoup d'autodéfense administrative, parce que c'est la galère pour plein de gens. Et comme on est souvent aussi très isolé, ben, c'est important de trouver des gens qui ont eu les mêmes galères avant et à qui on peut dire, en fait, t'es pas tout seul. Et on peut t'aider pour te démerder ça.
Alors, plus généralement, on voulait vous poser la question, pourquoi est-ce que le secteur large des arts et de la culture, avec tous ces différents statuts, est particulièrement ou va être particulièrement impacté par cette réforme des retraites si elle passe ?
Ben, je peux donner quelques éléments. Déjà, globalement, cette réforme, moi, je pense, elle paraît totalement à contre-temps, parce que dans le secteur du spectacle, on a généralement des salaires qui sont plus bas que la moyenne nationale. Et donc, qui dit salaire bas, dit pension bah, à chaque fois encore plus basse quand on arrive à la retraite. Donc, en plus, dans une période où il y a de l'inflation et on est précarisé, là, le gouvernement, il se dit, bah, tiens, on va faire une réforme des retraites. Et en fait, bon, c'est vraiment, en fait, c'est l'inverse de ce qu'on voulait. En même temps, bon, bah, c'est pas trop étonnant vu la nature politique du gouvernement. Et c'est pour ça que ça suscite beaucoup de colère, quoi, parce que déjà, on a besoin de plus pour vivre, et donc plus en salaire et plus en pension. D'ailleurs, en fait, ça peut être une piste qui permettrait de financer les retraites, hein, d'augmenter les salaires. Voilà, des salaires décents et des pensions décentes. Mais dans le spectacle, il y a quand même une problématique par rapport à des carrières hachées ou incomplètes, voilà, des périodes de non-travail, parce qu'on n'arrive pas, parce que les employeurs ne veulent pas de nous.
Parce que le Covid, par exemple.
Parce que le Covid, par exemple, ou parce qu'on ne peut pas bosser à temps plein. Voilà. Et bien ça, c'est des choses qui impactent, en fait, bon, dans le monde du travail, tout secteur confondu, c'est un petit peu la zone d'ombre de cette réforme, quoi. Et dans le spectacle, on est particulièrement affecté par ça. Et en plus de ne pas du tout prendre en compte la pénibilité dans nos métiers, je pense aux techniciens pour qui ça paraît évident pour tout le monde, quoi. Je veux dire, 43 annuités à faire des métiers physiques, c'est totalement bon. Je pense que dans la tête d'un patron, ça peut s'expliquer, quoi. Mais enfin, pour toute personne qui a déjà bossé dans sa vie, enfin bon, je parle du grand patronat particulièrement, pour toute personne qui a déjà bossé dans sa vie, c'est impensable, quoi, que ce soit en tout cas possible pour tout le monde. Et puis moi, je suis musicien et en fait, c'est des métiers qui demandent souvent un travail hyper conséquent. Et au bout de 43 ans, en fait, c'est souvent avec tout le boulot, un boulot physique, c'est des tendinites, c'est des problèmes dans le corps. Et en fait, plein de métiers dans le spectacle, c'est impensable de rallonger cette durée de travail, quoi.
C'est bon pour ça?
Du coup, dans les revendications qu'on a pu lire dans le communiqué de cet AG des arts et de la culture, il y avait notamment la question de la réforme du RSA qui nous concerne particulièrement à Lyon, puisque la métropole a décidé de l'appliquer en avant-première. Est-ce que vous pouvez nous en parler et en quoi, en plus, ça touche particulièrement vos métiers ?
Ouais, moi je peux en parler un petit peu, mais en fait le camarade qui parlait juste avant l'a déjà un petit peu évoqué, c'est que nos carrières elles sont hachées, elles sont heurtées, elles sont discontinues et que en fait elles sont soumises à des tas d'aléas qui sont liés à la création, au contrat, voilà, à la nature même de notre travail, quoi. Et donc il arrive dans une carrière forcément à un moment donné qu'il y a un temps de galère et bah des fois souvent le seul mode de survie, ça reste le RSA. C'est souvent utilisé en fait comme du temps de travail parce que aussi pour les artistes auteuristes, bah on n'a pas de chômage, donc forcément quand t'as pas de chômage, tu passes direct au RSA. Mais c'est aussi utilisé comme du temps en fait de pure production, quoi. On prépare le truc d'après qui nous permettra peut-être de sortir de ce statut-là qui évidemment est pas idéal et complètement précaire, quoi. Donc ça pour nous c'est une grosse attaque. Ça veut dire que si on nous force à travailler dans ces périodes-là, ça veut dire qu'on pourra pas en fait préparer la suite pour nous et sans doute pour une grosse partie des personnes concernées. Ça veut dire tout simplement qu'on arrêtera, quoi, qu'on abandonnera. C'est à dire que ce sera vraiment les gens qui peuvent se le permettre, qui ont déjà des moyens par ailleurs, par le patrimoine, par l'héritage, par tout ce qu'on veut, qui feront du boulot artistique. Et en termes de diversité de ce qui est donné, de ce qui est proposé, de ce qui est produit, bah ça sera appauvri nécessairement, quoi.
Alors il y a un autre point dans les revendications de l'AG Culture, c'est l'attaque assez frontale contre les écoles d'art supérieures et assez méconnues d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors je peux en parler un petit peu. Donc moi je suis pas dans les écoles d'art, etc. Mais bon, on s'est pas mal rencontré avec les collègues camarades de ces secteurs-là. C'était un peu un début aussi des AG Art et Culture. C'était qu'il y a à la fois artistes, auteuristes, intermittents, plasticiens, écrivains, spectacle, culture, quels que soient nos métiers. Et du coup, voilà, ce qui se passe dans ce secteur-là, au niveau des écoles d'art publique, en fait, c'est qu'elle se voit attaquée violemment par notamment des coupes budgétaires qui font qu'à terme, il y a peut-être la moitié des écoles d'art publiques en France qui est menacée de fermeture, hein, carrément. Et voilà,
surtout
et
dans les petites villes, si j'ai bien compris.
Surtout dans les petites villes. Et ça risque aussi de se traduire à l'échelle des individus par une hausse des frais d'inscription, non remboursement des frais pour les boursiers, etc. Et en fait, c'est la même chose, la même mécanique que je décrivais tout à l'heure sur le RSA, c'est que l'art sera, la production de l'art sera accessible aux riches, quoi, aux gens qui sont déjà aisés. Voilà. Donc, voilà.
Je crois qu'il s'était pas mal mobilisé les étudiants ces derniers mois autour de ces questions-là. On a prévu de les inviter dans les semaines qui viennent pour qu'ils nous en disent un peu plus. Quelles sont, là, on arrive à la fin de l'interview, quelles sont les prochaines échéances pour votre mobilisation? Est-ce que vous avez des dates à nous annoncer?
Eh bien oui.
Quelle surprise.
Donc on vous invite toutes et tous à nous rejoindre pour la prochaine Assemblée Générale qui sera le mercredi 1er mars à 18h à la Bourse du Travail, 205 Place Guichard, dans le 3e bien sûr, au premier étage. On vous invite à nous rejoindre pour discuter, pour rencontrer vos camarades qui sont dans le secteur culturel, mais qui n'ont pas nécessairement exactement les mêmes problématiques que vous, mais qui en tout cas peuvent faire converger tout un tas de choses. On vous invite aussi à nous rejoindre pour nous inscrire dans la lutte générale de toutes et tous les travailleurs et travailleuses, parce que c'est important, parce que le secteur de la culture, il n'est pas à côté, il n'est pas à part, il n'est pas... Non, il est avec... tous les autres, et donc ça aussi c'est très important, je pense que c'est quelque chose qui s'est vraiment dégagé des dernières AG. Et enfin, dernière chose, le port du masque sera demandé pendant l'AG, ce qui est effectivement, qui est également, pardon, une question d'inclusivité pour que tout le monde puisse venir. Une AG, ça dure 2 heures, il y aura des masques à dispo pour celles et ceux qui n'en auraient pas. Voilà. Et puis, juste tout petit dernier point, on parlait de la retraite à 65 ans. Pour les pauvres, c'est déjà la retraite à 65 ans, parce que le minimum vieillesse, l'ASPA, c'est 65 ans. Donc, c'est bien, ce que les pauvres, ils ont toujours fait un peu avant les autres, comme ça. Ils sont toujours précurseurs.
Là, il faudra même aller jusqu'à 67 ans pour avoir ce minimum vieillesse. Voilà. Donc, ce secteur-là, on l'a compris, est vraiment directement impacté par ce projet de réforme des retraites. Merci à tous les trois pour cette info.
Merci.
J'espère qu'il y aura plein de monde à cet âgé.
Et donc rendez-vous le 1er mars, je crois qu'il y a des grosses actions qui sont prévues par le secteur, notamment à la suite de la mobilisation du 7 mars, il me semble, mais on...
Affaire à suivre, voilà. On en saura un peu plus la semaine prochaine. On continue et on fait une petite transition musicale.
Petite pause musicale effectivement avec la rappeuse palestinienne Safa Hatot avec son morceau « Je suis arabe ».
نصيحة ندالية روح العب بقلم توش علي الصوت يسمع انا عربي يا جحش خلي املهم يقطعوا وارجيهم من الوحش علي الصوت يسمع انا عربي يا جحش عربي يا جحش انا عربي يا جحش علي الصوت يسمع انا عربي يا جحش خلي املهم يقطعوا وارجيهم من الوحش علي الصوت يسمع انا عربي يا جحش انا عربي يا جحش انا عربي يا جحش عربي فلسطيني مسيحي ولا مسلم مع الدم والاخوة مليون زيك منعلم مش رح نسلم الامر رح شدد ونقلم من نقط على الحروف لتنك بلحظة اتقلم روح لام اللي جابوك عشان نخطبهن بوحدتنا فكر تقدر تزلم لي بسنين انضوى انت بس عم تظلم الهوى لمجرد وجودك على ارضنا ما بتداوى دوا لحظة دوا الفكرة فكرة دمي بكره لما داني تصرخ بصامت بجرح فجاري اشرح كيف ممكن اشرح قلوب عم تسرح كيف عم تفتح المجال لا تقطع بين الحبال اللي عم نبني فيها اجيال هالتقطق بعطيك كل اللي عندي مش بحاجه لسلاح زي اي جندي في لسانك في لساني في انا وانت مش راح تفرقوا بين ديانته وبين ديانتي علي صوتا يسمع انا عربي يا جحش خلي املهم يقطعوا وارجيهم من الوحش علي صوتا
صوته يسمع انا عربي يا جحش عربي يا جحش انا عربي يا جحش علي صوته يسمع انا عربي يا جحش خلي املهم يقطعوا وجههم من الوحش علي صوته يسمع انا عربي يا جحش انا عربي يا جحش انا عربي يا جحش عزيزي مظبوط الروح ما بتموت فرقت اسود هذا الشعب ولا مره راح يكون مكبوت سمك بتقلب لحوت بخيوط عنكبوت شعبي صامد واقف جامد بالمع زي حجر الياقوت فرق شعب كامل قولي بأنو فيلم انتي فايت تتخرب بين صاحبي جاري وعيلتي انهضية طورة اهلا وسهلا شرفتي ورانا ابطال حقيقيين مش فيلم هندي ضهري جيش كامل حاضر شجاعة عندي عربية جحش رح يخسروا التحدي ايدك بايدي البلاد هون لسيدي راح نرجع المستقبل لحفيدك وحفيدي علي صوتا يسمع انا عربي يا جحش خلي املهم يقطعوا ورجيهم من الوحش علي صوتا يسمع انا عربي يا جحش.
Et on continue notre émission spéciale retraite avec la suite des interviews et on est ravis d'accueillir Sophie, du coup, membre de l'union locale CGT Villeurbanne, et Sébastien, qu'on ne présente plus ici, mais qu'on va quand même présenter, qui est donc membre de la CGT Ville de Lyon. Merci d'être là.
J'adore qu'on dise ça.
Merci. Bonsoir à tous.
Alors, est-ce que pour commencer, vous voulez bien rapidement présenter les secteurs que vous représentez et nous faire un petit état des lieux ? Il me semble aussi que du côté de la CGT Ville de Lyon, il y a eu quelques victoires et quelques grèves récemment avant de rentrer dans le détail du mouvement contre les retraites.
Ah bah la CGT, enfin la Ville de Lyon, c'est un secteur assez large hein, parce que ça va des mairies d'arrondissement, on va déclarer des naissances, il y a les crèches, il y a les écoles, on va déclarer jusque au décès aussi dans les mairies d'arrondissement, c'est des EHPAD, c'est l'éclairage urbain, c'est plus de 450 métiers en fait, 10 000 à peu près fiches de paye qui sortent, 8500 agents vraiment déclarés comme fonctionnaires territoriaux, enfin comme poste déclaré comme fonctionnaire territorial, il n'y en a pas autant, on n'est que 6500 agents vraiment titulaires de la fonction publique. Donc c'est un secteur très très vaste quoi. Je dis souvent, c'est vraiment le quotidien des Lyonnais, quoi. C'est vraiment, on va inscrire son enfant en crèche, ben on passe par une mairie d'arrondissement, quoi. Enfin, c'est vraiment le quotidien de tous les Lyonnais, et jusque dans les MDML, enfin les maisons de la métropole et de la ville de Lyon, où il y a des assistants sociaux qui travaillent aussi pour les Lyonnais. Un restaurant social, une épicerie sociale, je fais du très social ce soir, mais il n'y a pas que ça non plus à la ville de Lyon, il y a aussi la police municipale, ce genre de choses. Voilà.
Et sinon, alors moi je suis donc à l'union locale CGT de Villeurbanne, on regroupe l'ensemble des syndicats du territoire, donc de Villeurbanne, donc c'est très varié, il peut y avoir mon syndicat qui est de la CEPAM du Rhône, mais on a aussi les salariés isolés qui travaillent dans des TPE, des PME, et là la confrontation avec la réforme de la retraite, elle est d'autant plus difficile à organiser parce qu'ils sont souvent éloignés du syndicat. Donc les appels intersyndicaux les motivent un peu plus et leur facilitent la capacité à se mobiliser, on va dire.
Alors vous êtes rentré en grève le 19 janvier dernier. On arrive. Est-ce que c'est possible de faire un bilan de mi-étape, si je peux me permettre, de la mobilisation ? Comment est-ce que vous êtes rentré dans cette mobilisation ?
Ah bah à la ville de Lyon, ça a été historique. Il n'y a jamais eu autant de quinquagénaires maintenant, ça c'était vraiment jamais vu. En fait, on venait juste de gagner un procès hein, contre la ville de Lyon qui limitait le droit de grève aux agents des crèches ou des écoles. Et je crois que dans les écoles, je crois que sur 180 restaurants, il y avait 15 restaurants ouverts en pique-nique. Tout le reste était fermé. Hein. Et toutes les écoles étaient touchées par... Alors, il y a les copains de l'éducation, hein, bien sûr, qui étaient en grève, mais les agents de la ville de Lyon se sont mis massivement en grève. Après, ça s'est un peu plus calmé la deuxième fois parce que il me semble que c'est tombé pendant les congés. Donc c'est vrai que les gens sont. Et puis là, la manifestation était à 14h, il me semble. Donc il y avait beaucoup d'agents de la ville de Lyon, un peu moins de grévistes. Et puis là, on espère une grosse grève le 7. La CGT Ville de Lyon l'a posé un préavis de grève reconductible. On espère vraiment que les agents de la Ville de Lyon, parce que c'est quelque chose qui va nous toucher vraiment fort, vont s'impliquer dans ces journées de grève. Et juste une petite pub pour notre syndicat. Demain, on passe le film La Sociale à partir de 14h, en plus dans un endroit qui est un peu symbolique. C'est le Palais de la Mutualité. Si vous voulez venir aussi, vous pouvez. C'est rentrer... Alors, c'est pas l'aile de la mutualité, c'est vers la Guillotière. Okay. Vers le... Et il y a une caisse de greffe à l'entrée. L'entrée est gratuite. Chacun met ce qu'il veut. Et on espère que ce moment d'échange qu'on va avoir avec les agents de la ville de Lyon, puis il y a les agents de la métropole aussi qui vont venir, que ça va pouvoir continuer après et puis faire un bon mouvement pour le 7 et pour le reste.
Sur la CEPAM, la mobilisation, elle est partie dès le 19 janvier, le premier jour de mobilisation. Assez fort, on était à des taux à plus de 50% de grévistes, donc c'est plutôt pas mal. Après, selon les journées, les taux changent. C'est vrai que ça baisse un petit peu, mais c'est vrai que les derniers jours étaient sur des périodes de vacances où c'est un peu compliqué. Et on reste aussi une population massivement féminine. Avec aussi des temps partiels, alors pas forcément imposés, c'est souvent des temps partiels choisis, mais on sait que les temps partiels choisis des femmes, c'est pas forcément un choix basé sur le salaire, mais sur la capacité à gérer la famille, donc c'est impactant sur la capacité à faire grève. Mais bon, sinon, la mobilisation, elle est plutôt bonne, et encore une fois, le fait que ce soit en intersyndicale complète, ça pousse quand même les salariés à rejoindre le mouvement.
Et il me semble aussi que du côté des patinoires, ça avait bougé juste après le début de la réforme des retraites. Est-ce que tu peux en dire un mot ?
Ah, les patinoires, c'est un long combat. Enfin, ce sont des agents qui se sont mis en grève depuis le mois de septembre pour des difficultés un peu liées à la sécurité. Et puis ils se sont aperçus après qu'ils avaient des conditions de travail salariales qui étaient vraiment dégueulasses. Il faut savoir que c'est une vieille loi qui régit un peu leur... Le tarif de nuit, il faut savoir que les agents territoriaux, l'heure de nuit est majorée à 0,78 centimes. C'est une loi de 74 et à l'époque c'était 4 francs et quelques. Enfin voilà, c'est... Et donc ils se battent depuis. Et il y a un préavis de grève qui est déposé aussi pour eux, pour les agents des patinoires. Alors donc eux, ils sont en combat pour des questions salariales, mais bien sûr, à chaque fois qu'il y a une journée pour la retraite, les patinoires ferment. Du coup. Ils sont encore plus impliqués dans ce mouvement.
Et ben, ça donne envie de passer un peu aux perspectives. Hein. Du coup, vous avez mentionné évidemment le 7 mars. Hein, tout le monde attend un peu que ça parte un peu avec les bouchées doubles. Et comment est-ce que, respectivement, vous imaginez suivre ce mot d'ordre, blocage total du pays le 7 mars, mais surtout et après ?
Alors nous, à la ville de Lyon, c'est vrai que pendant des années de colons, il y a beaucoup de choses qui sont parties ou au Grand Lyon, ou à la métropole. J'entendais tout à l'heure parler du ramassage d'ordures, c'est plus à la ville de Lyon. Nous, notre boulot de syndicat, enfin surtout à la CGT, c'est de faire comprendre aux gens, c'est que la grève, elle est importante. Quoi. Je vois les agents des écoles disent « Ouais, mais on se met en grève, on parle pas... » Mais non, si vous mettez en grève et que l'école est fermée, c'est des parents qui ne peuvent pas aller travailler, qui sont obligés de garder les enfants, donc vous bloquez votre école, mais vous bloquez aussi les parents. Donc c'est ça qu'on essaye de faire comprendre un peu aux gens. Et puis, c'est vrai que on en parlait tout à l'heure, c'est beaucoup de gens qui sont attachés au service public. Dans les EHPAD, vous n'arriverez pas à les faire, en plus à se réquisitionner, et puis ils ne vont pas laisser les personnes âgées seules. Quoi. Donc c'est vraiment, ça va être vraiment dans les secteurs particuliers, ça va être, je pense aux écoles, je pense que l'éclairage urbain aussi va peut-être y mettre un petit coup, je pense au sport, je sais que les piscines aussi, ça commence à gronder, il y a la piscine du Rhône qui était fermée un samedi, je crois, et qui ferme aussi régulièrement. Donc c'est tous ces secteurs-là qu'on espère que ça va bouger. Quoi. Il y a les jardiniers aussi, les espaces verts. Voilà, il y a beaucoup d'endroits où on peut bouger, malgré qu'ils essayent de nous casser un peu le droit de grève.
Alors, sur la CEPAM, du coup, je parle plus de la CEPAM que de Villeurbanne, mais on va appeler au 7, bien sûr, et aussi au 8, parce qu'il y a la journée de grève et de mobilisation le 7 avec une manifestation. Enfin, deux dans le Rhône, hein, Lyon et Villefranche. Mais il y a l'8 aussi, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, dans lesquelles on s'inscrit bien sûr, et l'intersyndicale s'inscrit aussi là-dedans. Et sur Lyon, le 8 mars à 11h, il y a un rassemblement devant le MEDEF avec une demande d'audience, en ciblant notamment la question des réformes sur la question des femmes. Et le fait que finalement, malgré les discours du gouvernement, c'est encore elles qui vont trinquer encore plus. Tout à l'heure, vous parliez de la situation particulière du monde de la culture et des contrats particuliers, de la précarité, mais les femmes sont toujours encore plus, un peu plus précaires. Un précaire homme, une femme, sera toujours encore un peu plus précaire. Et du coup, elles bénéficient, si on peut dire, encore plus de cette réforme si elle passait.
Et le 8, d'ailleurs, il y a une manifestation aussi en fin d'après-midi à 17h à Bellecour, non, me semble-t-il ?
Il y a un Alors, à 11h, c'est rassemblement devant le MEDEF avec une demande d'audience où on ciblera d'un point de vue syndical. Donc, c'est bien l'intersyndical qui appelle sur les métiers féminins. Par contre, bien sûr qu'ensuite, si je ne me trompe pas, 17h, place Bellecour, il y a le collectif Droits des Femmes, dans lequel il y a des syndicats et des associations de droits des femmes qui appellent à mobilisation, rassemblement et manifestation.
Bon, de toute façon, tout ça, on le rappellera la semaine prochaine. On a encore une émission avant le 7 et le 8, mais c'est déjà bien de commencer à annoncer un peu la couleur du 7 et du 8.
Un petit mot peut-être avant de passer à notre traditionnel agenda sur les mots d'ordre à tenir.
Non, un petit mot rapide sur ce qui peut nous arriver chez nous, les territoriaux. Il faut savoir déjà qu'à la ville de Lyon, je vais parler vraiment de la ville de Lyon, on part déjà à 63 ans et des brouettes, pratiquement à 64 ans. Si on nous rajoute 2 ans, une aide-soignante ou quoi que ce soit qui bosserait jusqu'à 65 ans, ça serait une catastrophe. Donc il faut vraiment que cette réforme, elle passe pas. Parce qu'on est déjà... la plupart de nos agents arrivent cassés. Je parle d'une ATSEM, d'une aide-soignante à 45-50 ans. Elles se mettent à temps partiel pour pouvoir supporter leur travail. Et puis, elles n'arrivent pas à partir réellement à 62 ans, déjà là, actuellement. Donc, si on le recule à 64 ans, ça sera encore pire. Et ça sera une catastrophe pour nous.
Eh ben, merci à vous deux d'être venus là. Évidemment, on vous tiendra ici au courant spécifiquement comment ça évolue dans les différents secteurs. Et on vous dit sans doute à bientôt.
Et un grand merci à vous.
Merci, c'est sûr même. À bientôt. Et puis on passe au traditionnel agenda, puisqu'il y a un agenda très chargé cette semaine avec plein d'agés un peu partout. Donc vas-y,
cette semaine,
tu peux y aller.
C'est du lourd pour préparer le set. Alors on commence avec, ne serait-ce que demain, le 28 février, avec un premier rendez-vous étudiant à 12h30. C'est une AG étudiante à l'amphi Descartes, qui se situe à l'école normale supérieure au métro de Bourg. Toujours demain, il y a aussi, donc on en parlait, une projection du film La Sociale. Il y a même deux projections du film La Sociale. Une première projection à 14h en soutien donc à la caisse de grève au palais de la Mutualité, organisée par la CGT Ville de Lyon. Donc ça, c'est dans le 3e. Et une autre projection à 17h à Lyon 3, à l'université Lyon 3, à la manufacture des tabacs, à l'amphi J, en soutien cette fois-ci à la caisse de grève des personnels de l'ESR, de l'enseignement supérieur de la recherche. À 18h, toujours demain, il y a une autre assemblée générale, qui est celle du comité de lutte Lyon. Donc celle-là, elle a lieu à l'annexe de l'ECG, 27 rue Salomon-Reynac, dans le...
7e arrondissement à la Guillotière, tu ne sais pas où c'est.
Qui sera parallèle à une deuxième AG étudiant, cette fois-ci à Lyon 3, à l'amphi J, qui suivra la projection du film à 18h. Et pour finir, demain soir, à 18h45, il y a la projection du documentaire Violence policière, le combat des familles. C'est une projection qui se suit d'un débat. Et ça se situera au cinéma Lumière Bellecour dans le 2e. La séance débute donc à 18h45. On passe maintenant au 1er mars, qui commencera avec un rassemblement pour le droit des personnes trans discriminées. Ça sera face à la CPAM du Rhône, c'est devant le tribunal judiciaire de Lyon. Et ça sera à 14h. Le 1er mars, toujours à 16h, une AG lycéenne se tiendra. Le lieu n'est pas encore défini, il faut suivre les comptes des réseaux sociaux de la force lycéenne 69 pour se tenir au courant du lieu. Le 1er mars toujours, mais à 18h, une AG, on vient de le mentionner, des arts et de la culture, se tiendra à la Bourse du Travail, en parallèle d'une AG étudiante qui aura lieu à l'IEP. La salle sera aussi à préciser plus tard. Le 2 mars à midi...
Alors, précise peut-être que le 2 mars, c'est quand même une journée un peu spéciale. Il y a un appel de l'intersyndicale du Rhône. Vas-y, tu peux en parler rapidement.
Oui, alors c'est un appel intersyndical là, complet, où on fait une grosse diffusion de tractage. Chaque union locale a décidé de lieu et d'heure. Donc, sur toute la journée, normalement, il n'y a pas un seul rhodanien qui devrait éviter un tract. C'est... Voilà, chaque... Je,
sais pas si tu lui donnes.
Bah, je peux la dire très rapidement et puis on la notera. Oui. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver ça sinon sur le Facebook de l'UDCGT ou pas forcément.
On peut essayer, mais
on le notera sur notre blog. Mais je fais le petit listing. Alors l'UL Villefranche, distribution au péage à 7h le 2 mars. L'UL 3e 6e arrondissement, distribution de 7h30 à 9h30 gare Pardieu. L'UL 5-9, distribution métro Gorge de Loup et métro Gare de Vaise. L'UL Saint-Priest, distribution place des Nations Unies, 17h à 19h. L'UL 7-8, distribution au marché des États-Unis à 8h30 et distribution hôpital Mermoz à 6h. L'UL Villeurbanne et Vaux-en-Velin, distribution au métro La Soie à 17h30. L'UL Vénissieux, distribution Renault Trucks à 7h. L'UL Oulin, distribution métro Gare Doulin de 7h à 8h. Chez les cheminots, distribution gare Jean Massé de 7h à 9h. Et l'US Santé, distribution place Guichard de 9h30 à midi. Et gare Pardieu de 11h30 à 13h.
C'est le tract intersyndical qui sera déployé à ce moment-là.
Voilà, donc n'hésitez pas. Il y aura aussi des actions hein, le 2 mars. N'hésitez pas à vous renseigner au maximum. Distribution de tract, action. C'est